Pour la deuxième visite de Carla, on nous avait changé de parloir. Ce n'était pas idéal, mais au moins, il y avait une fenêtre plus lumineuse. Curieusement, ce jour-là, nous avons beaucoup ri ensemble. Nous nous demandions si nous étions filmés ou écoutés à notre insu. De temps en temps, nous faisions des messes basses pour nous dire des futilités en nous moquant de ce possible espionnage judiciaire tellement inutile. Comme si 20 ans après les faits qui m'étaient reprochés, à tort, nous avions quelque chose à cacher, à dissimuler ou à soustraire à la justice et aux enquêteurs. Ces derniers ne pouvaient se résoudre à l'idée que s'ils n'avaient rien trouvé après 10 années d'investigations multiples, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait rien à trouver dans ma campagne de 2007. Cette obsession à faire de moi un coupable idéal ramenait l'état de droit en France à bien peu de choses. Certains éditorialistes de gauche ont beaucoup glosé sur la comparaison que j'avais avancée entre l'affaire Dreyfus et la situation que je vivais. Et pourtant, pour tout observateur impartial et connaissant l'histoire, les concordances étaient stupéfiantes. L'affaire Dreyfus prospéra sur la base de faux documents. La mienne débuta sur la base du faux de Mediapart, doublé des faux témoignages de Takedine et du clan Kadhafi. Ces faits sont désormais avérés. Dreyfus fut d'abord dégradé devant le front des troupes. On lui retira ses galons et ses décorations. Je fus exclu de la Légion d'honneur devant le front de la nation, sans même attendre l'issue de mon recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Dreyfus fut emprisonné à la prison de la Santé, un endroit que je connais bien désormais. Certes, je n'ai pas été relégué sur l'île du Diable, dans la lointaine Guyane. Sur ce point, j'ai eu bien davantage de chance que lui. Mon crime, aujourd'hui, serait-il de ne pas être de gauche? Ces dernières années, on ne peut que constater la célérité autant que la sévérité de la justice lorsqu'il s'agit de responsables de droite. Quand l'ancien ministre du budget de François Hollande dut reconnaître après avoir menti aux Français et à leur présentation nationale qu'il était titulaire d'un compte bancaire à Singapour, richement doté, sans qu'il ait payé le moindre impôt. Personne ne s'indigna qu'il n'ait pas passé une journée en prison. Tant mieux pour lui. Mais c'est bien la preuve du deux poids, deux mesures. L'indépendance de la justice est un principe essentiel dans notre République. Je serai le dernier à le contester, alors que président, je n'ai jamais été suspecté de la plus petite intervention en la matière. On oublie trop souvent que la contrepartie nécessaire de l'indépendance, c'est l'impartialité. On parle toujours de la première, mais jamais de la seconde. Or, si cette dernière n'est pas respectée, l'indépendance ne signifie plus rien. De ce point de vue, que dire du fait que j'ai été par 2 fois jugé par des présidentes de tribunal et de cour qui avaient publiquement manifesté et pris clairement position politiquement contre moi? On est bien loin de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui exige que tout justiciable n'ait aucune raison de douter de l'impartialité de son juge. Cette règle essentielle a-t-elle été respectée avec moi? Répondre non n'est pas une exagération. Affirmer qu'elle a été bafouée à plusieurs reprises sans que nul au sein de l'institution judiciaire trouve à y redire me semble être une vérité d'évidence. Je ne veux manquer de respect à personne, je ne ferai aucun amalgame, mais les faits sont têtus. Dès ma première journée d'incarcération, j'avais souhaité utiliser la salle de sport. Pour dire la vérité, je n'en avais aucune envie et même je ne m'en sentais pas la force. Mais si je ne le faisais pas dès le début, je n'aurais sans doute plus la volonté par la suite. Les mauvaises habitudes se prennent vite. À l'inverse, j'imaginais aisément les dégâts sur mon équilibre psychique comme physique qu'une absence d'activité me ferait subir. Je n'avais pas l'espace pour marcher. La cellule dans laquelle j'étais cloîtré était trop petite, mais j'avais la possibilité de courir. Je demandais donc la permission de pratiquer cette activité à l'heure du déjeuner. Je savais maintenant d'expérience que je ne manquerais pas grand-chose, gastronomiquement parlant. Je fus surpris que le tapis de course ne soit pas branché sur l'électricité. Je n'avais jamais utilisé une machine qui n'était activée que par ma propre foulée. Ce n'était pas désagréable. Mais il fallait trouver un équilibre, car l'instrument pouvait s'emballer en cas d'accélération de la cadence. Je finis par m'y habituer et même par y trouver du plaisir à force de pratique. Ce serait un rendez-vous quotidien. Une heure de course à pied dans la prison de la santé, ce n'est pas donné à tout le monde. J'étais bien conscient de mon privilège. Pour moi qui avais l'habitude chaque jour de parcourir le bois de Boulogne, le changement était notable. J'aimais pratiquer par tous les temps, mais de préférence à l'extérieur pour ventiler. Désormais, ma seule perspective serait les quatre murs gris de cette petite salle. Il fallait vraiment s'accrocher pour ne pas se lasser. Puisque le cadre était déprimant, la tête devait trouver des dérivatifs. À défaut de vivre libre, je pouvais rêver librement. Je m'imaginais alors dans la forêt de Saint-Léger-en-Yvelines. Un autre jour, je courais au bord de la mer, au Cap-Nègre. Je variais ainsi mes parcours. Les itinéraires changeaient dans ma tête, ce qui me permettait d'échapper à cet enfermement oppressant. À force de m'y astreindre, d'y croire, de faire semblant, j'ai fini par y trouver une forme de plaisir. On ne peut se figurer à quel point le cerveau humain est une machine à rêver et combien nous sommes nous-mêmes responsables de notre état d'esprit, de notre morale, de notre mood, pour employer un anglicisme. J'ai bien conscience qu'il s'agissait d'un simple rêve, mais c'était mieux que rien. En tout cas, cela me permettait de revenir du sport à ma cellule chaque fois plus serein et plus équilibré que lorsque je l'avais quitté. Comme en haute montagne, lorsqu'on cherche à atteindre les sommets, chaque petit pas comptait, ou au moins me rapprochait du but. Les surveillants partageaient avec Carla la préoccupation que je ne me nourrisse pas assez. Ma santé physique et mentale était leur plus grande inquiétude. J'avais parfois l'impression d'être devenu un enfant qui n'avait pas fini son assiette. Leur chef, un Martiniquais tout à la fois sympathique, attentionné et rigide, essayait de me raisonner. « Avec votre pratique du sport, président, vous ne pouvez pas vous nourrir que de laitage. » Ben, je n'y pouvais rien. Mais la vision de ces petites barquettes en plastique qui sentaient si fort me soulevait le cœur. Et que dire de la baguette molle et humide qui était proposée chaque jour au moment du déjeuner. Ne voulant pas gâcher cette nourriture en la jetant, je préférais la refuser. On ne pourra pas dire que mon alimentation fut très équilibrée ou saine durant mon séjour à la santé. J'ai été touché tout particulièrement par la gentillesse, la délicatesse et le respect du personnel pénitentiaire à mon endroit tout au long de mon incarcération. Chacun s'adressait à moi en utilisant le titre de président. Il frappait toujours à la porte avant de pénétrer dans ma cellule. Il cherchait le contact, l'échange, la conversation. Beaucoup étaient jeunes, voire très jeunes. Pourtant, leur calme et leur maîtrise apportaient une certaine paix dans cet espace clos où la violence était omniprésente. Je ne les ai jamais vus perdre leur sang-froid ou leur nerf, spécialement face à des détenus à bout. Un jour, l'un de mes voisins avait frappé un long moment contre la porte de sa cellule, car son parloir avait quelques minutes de retard. Le bruit était oppressant et résonnait dans tout le couloir. Le jeune surveillant me fit cette remarque fataliste. « C'est un détenu impatient. » Son flegme m'impressionna. Je n'en aurais sans doute pas été capable. Je n'avais ni le droit ni la possibilité d'échanger avec les policiers qui ne pouvaient pas entrer dans ma cellule. J'étais donc content de cette proximité familière avec mes surveillants. Cela contribuait à humaniser la prison. Beaucoup, originaires d'outre-mer, attendaient patiemment de pouvoir revenir dans leur territoire d'origine pour y exercer leur métier, leur jeune âge les contraignait à demeurer en région parisienne avant de pouvoir postuler à un poste équivalent. Les places étant rares, il leur fallait acquérir une ancienneté minimum. Ce premier vendredi de ma détention s'avéra sinistre, car nous avions utilisé tous les droits de visite. Ni Carla ni les enfants ne furent autorisés à venir me voir. Je demeurai seul, même si mes avocats Jacqueline Lafont et le si constant Christophe Ingrin firent de leur mieux pour combler le désert affectif du jour. J'appelai Carla dès le matin pour m'enquérir de son moral. « Je ne peux pas venir avant demain après-midi, c'est une horreur. » Je pensais exactement la même chose, mais comme nous n'y pouvions rien, il nous fallait nous y résigner. Je sentais cependant la rage monter en moi, comme un volcan en éruption. Pourquoi fallait-il imposer toutes ces cruautés et ces vexations à ma famille? Je voyais les miens souffrir inutilement. Cela me rendait fou de colère et de douleur. Tenter de m'abattre aussi injustement ne suffisait-il donc pas? Il fallait de surcroît blesser ma famille. Nous avions décidé d'envoyer Julia avec des amis à l'étranger pour l'éloigner quelque peu du chaudron. Son jeune âge la rendait plus vulnérable malgré sa maturité et sa force qui m'impressionnait. Je lui téléphonais alors qu'elle était à Madrid. Sa voix vibrait d'émotion de m'entendre pour la première fois depuis la prison. « À mon retour, je veux venir te voir, papa. Je suis forte. Laisse-moi être à tes côtés. J'ai besoin d'être avec toi. » J'étais tout à la fois bouleversé et hésitant. Je voulais la protéger, mais refuser sa venue aurait été la considérer comme une enfant fragile, alors même qu'elle se voyait déjà comme une jeune adolescente. Je me résolus à lui dire oui. Il y avait bien avantage à apprendre en faisant face à la situation plutôt qu'en essayant de trouver des chemins d'évitement qui en réalité n'éviteraient rien et ne protégeraient de rien. Après avoir raccroché, elle appela sa mère pour lui dire fièrement « Papa m'a appelé, il va très bien, surtout ne t'inquiète pas. » Carla et moi en avions les larmes aux yeux, elle reproduisait à sa mère le discours que celle-ci lui tenait chaque jour pour la protéger. J'étais si fier de ma famille, dans laquelle chacun veillait à prendre soin de l'autre. Chacun assumait sa part de responsabilité pour alléger celle des autres. Et surtout, tous s'aimaient parce qu'ils avaient tant besoin des autres. J'ai pensé au roman d'Alexandre Dumas, Les Trois Mousquetaires, un pour tous et tous pour un. Au fond, je n'avais pas de quoi me plaindre. J'étais enfermé, mais entouré de tant d'amour. Cette épreuve allait démultiplier notre force collective. J'aurais presque pu remercier mes ennemis de m'avoir, à l'insu de leur plein gré, accordé une telle grâce. Les amis n'étaient pas en reste. Ces périodes où les sentiments sont portés à leur paroxysme révèlent les tempéraments en apportant leur lot de bonnes surprises et de grandes déceptions. J'avais bien vu, en quittant mon domicile pour la santé, que beaucoup de mes proches étaient profondément bouleversés. Nombreux étaient ceux qui ne pouvaient dissimuler leurs larmes. Il y a eu tant d'initiatives touchantes et merveilleuses que je ne peux toutes les citer. Je garderai cependant un souvenir ému des recettes de cuisine qu'Emmanuelle Mignon, qui fut ma directrice de cabinet à l'Élysée, a tenu à me faire parvenir pour masquer son inquiétude quand elle apprit que je ne me nourrissais que de laitage, ignorant les repas de la prison. Elle avait consigné le temps de cuisson des pâtes, le minutage d'un œuf dur ou d'un œuf à la coque. Elle souhaitait vivement que je me serve de la petite plaque chauffante de ma cellule. Elle m'a sans doute toujours vu plus fort et surtout plus habile que je ne le suis. J'ai dû la décevoir, mais son intention était si gentille. Je ne voulais pas utiliser mon temps d'enfermement à cuisiner. Cela étant, j'ai tant aimé ce geste, venant d'une personnalité au caractère rude, mais dont le cœur était si généreux. Chaque jour, un immense bouquet de fleurs arrivait à la maison avec une carte signée Edmond Dantès. Nous cherchions avec Carla à trouver le commanditaire doté d'un tel humour. Nous échafaudions des hypothèses. C'était devenu un jeu entre nous. Je n'ai su qu'à ma sortie de prison qu'il s'agissait de l'initiative de l'un de mes plus proches amis, Michael Fribourg. J'aimais cette intention et cette référence, car le comte de Monte Cristo, que j'avais apporté en prison, délivre un double message. La Renaissance, bien sûr, mais aussi la vengeance. Il n'oublie rien. Il retrouve chacun de ses dénonciateurs et leur accorde le châtiment qu'ils méritent. On parle beaucoup de la première, moins de la seconde. La Renaissance, je l'aurai, cela ne fait aucun doute, dans mon esprit. Les faussaires, les comploteurs, les menteurs ne peuvent pas gagner sur le long terme. La vengeance, je l'ai déjà dit, ne m'est pas naturelle. Je n'aime pas ce sentiment. Je n'ai pas envie de me rabaisser avec l'idée de faire du mal à ceux qui m'en ont tant fait. Mais je sais qu'il va me falloir reconsidérer une partie de mes convictions, non pour moi, mais pour tous ceux innombrables qui encourent le risque de l'injustice. Le combat que je mène est beaucoup plus large que celui qui serait réduit à ma seule personne. Tous ceux qui exercent des responsabilités ou prennent des initiatives craignent désormais de se trouver en danger à tout moment, tant les règles peuvent être bafouées et les limites du bon sens dépassées jour après jour. Il existe en France, dans nombre de milieux, une minorité d'autant plus agissante qu'elle est peu nombreuse, qui poursuit un combat idéologique contre les politiques, contre la droite et contre moi qui en suis le symbole. Il faut éviter à tout prix ce qui pourrait devenir une véritable guerre des pouvoirs qui peut se déclencher à tout moment. Les élus du peuple ne se sont jamais sentis aussi fragilisés, aussi menacés, aussi impuissants, alors même qu'ils sont les représentants de la souveraineté populaire. Naturellement, l'importance de leur rôle ne doit pas conduire à garder en leur sein des brebis galeuses. Pour ce qui est de l'institution judiciaire, il existe à travers le monde des systèmes où les magistrats sont élus. Cela n'a jamais été le cas dans notre histoire et cela ne serait pas compatible avec les valeurs de la République. Raison de plus pour que chacun soit particulièrement vigilant quant à l'image d'impartialité qu'il doit donner. Je suis persuadé que l'immense majorité des magistrats est consciente de ce risque qui pourrait devenir une dérive. C'est bien d'ailleurs cette majorité qui serait la première victime d'actions partisanes qui n'ont rien à faire dans les prétoires. Il existe un point d'attention particulier. Certaines organisations syndicales de magistrats revendiquent elles-mêmes un combat idéologique et politique. C'est en soi un problème. Mais ça l'est davantage encore quand on sait le rôle que ces organisations peuvent jouer dans les nominations, les promotions, les carrières des membres du corps. Je ne veux en aucun cas caricaturer. Ce n'est ni dans mon tempérament, ni dans mon histoire. Mais je ne peux passer sous silence les excès du syndicat de la magistrature et son tristement célèbre mur des cons. J'en étais la tête d'affiche. Ma photo était épinglée au centre de ce panneau de la honte. Comment pourrais-je ne pas m'interroger sur l'impartialité d'un membre de ce syndicat qui a professé une telle détestation débridée à mon endroit? Mais qui l'accepterait à ma place? Naturellement, personne de sensé. Il suffit de rappeler que se trouvait à mes côtés, dans les cibles obsessionnelles de cette organisation, Jean-Pierre Escarfaille, le père de la première des victimes tuées et violées par Guy Georges. Mais pourquoi haïr cet homme qui a tant souffert? On frémit à l'idée que ceux qui ont bâti ce mur sont des magistrats censés incarner la mesure, l'équilibre, la loi. C'est sans doute le moment de tordre le cou à un argument particulièrement fallacieux et pourtant scandée sur les plateaux de télévision. Il ne faut pas critiquer une décision de justice. Cela ne doit pas et ne peut pas se faire. Mais je note que si tel était le cas, il n'y aurait ni doctrine ni jurisprudence, puisque justement c'est leur rôle. Mais à partir du moment où la justice, qui était une autorité, est devenue un pouvoir, non seulement la critique est nécessaire, mais plus encore, elle est saine. En effet, qu'est-ce qu'un pouvoir qu'on ne peut pas critiquer, si ce n'est une dictature, un totalitarisme ? Le contraire de la démocratie qui se nourrit de la critique positive comme négative. La justice est devenue un pouvoir. Il s'agit sans doute d'une évolution sur laquelle personne ne reviendra. Elle doit en accepter la contrepartie, celle de la critique de son action, au même titre que cette dernière s'applique sans limite au pouvoir exécutif comme au pouvoir législatif. Le bon sens devrait amener chacun à considérer ce point plutôt qu'à rabâcher un slogan qui n'a plus aucun sens. Un autre raisonnement, guère plus pertinent, a été maintes fois utilisé à propos de mon incarcération alors que j'avais fait appel contre le jugement du tribunal correctionnel de Paris. Cette mesure aurait été justifiée pour la seule raison qu'elle est prévue dans le code de procédure pénale. Mais la question n'était pas de savoir si la mesure existait, mais si elle devait s'appliquer à ma situation. Oh, rien, absolument rien, ne justifiait cette décision d'une brutalité inouïe. Bien sûr que la détention provisoire existe dans notre arsenal juridique pour ceux qui pourraient être tentés de se soustraire à la justice. Cela n'a jamais été mon cas. Le risque de réitération ? Je n'ai à ma connaissance pas fait acte de candidature à la prochaine élection présidentielle, pour laquelle je suis d'ailleurs, pour l'instant, inéligible. Le risque de pression sur les témoins ou de concertation ? 20 ans après les faits ? Et à l'issue de 12 ans d'enquête ? Cela n'a pas de sens. Le risque de destruction des preuves ? Ce serait une plaisanterie. Pour ces faits qui remontent à 20 ans, et alors que précisément, les juges eux-mêmes ont reconnu qu'il n'y avait pas de preuves. Où est la logique ? Où est la mesure ?